France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, ferons-nous un jour parler les chiens ? Pour nous autres, les humains, le langage est présent comme une réalité de fait. Nous nous demandons toutefois de quel état antérieur il a bien pu provenir. D'où vient que nous sommes des animaux parlants ? Dans l'espoir de répondre à cette question, certains humains ont construit des récits, des fables, des mythes, par lesquels ils prétendent nous donner accès à la genèse du langage. Mais le succès de cette entreprise est très douteux. Car ou bien ces récits ressemblent trop à la réalité que nous souhaitons engendrer, par exemple en mettant la langue de Victor Hugo dans la bouche des premiers humains parleurs, et ils ne nous apprennent rien. Ou bien ils en diffèrent assez pour instituer un écart manifeste, et ils nous privent alors de référents, et posent finalement plus de questions qu'ils n'en résolvent. Par exemple, si l'on examine tous les discours qui ont été tenus sur le cri, l'onomatopée, le babil, on se rend compte qu'à partir d'eux seuls, nous ne rejoindrons jamais le discours articulé proprement dit, ou, si nous le rejoignons, c'est que nous l'avions déjà subrepticement enfoui dans ses réalités anciennes et évanescentes. Bref, nous tournons en rond, puisque nous insérons au sein même de l'origine du langage ce qui en est issu, fabriquant ainsi un poisson qui se mord joliment la queue. Mais dire cela, c'est peut-être oublier que les chiens, nos meilleurs amis à ce qu'on dit, pourraient nous aider, avec l'appui des neurosciences et de la génétique, à comprendre d'où vient que nous, nous parlons, et eux, non. En tout cas, c'est ce que nous allons voir avec mon invité d'aujourd'hui, Annelise Giraud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neuroscientifique, professeur détaché du CNRS à l'Institut Pasteur. Vous avez reçu en 2023 le Grand Prix de la Monica de l'Académie des Sciences, un prix de neurologie, et vous avez obtenu en 2025 la médaille d'argent du CRS. Et surtout, vous venez de publier un livre chez Hermann qui s'intitule « Parlons-nous chiens et pense-t-il humain ?» Ma première question, Alain Giraud, concerne votre passion principale. Est-ce que c'est le langage ou est-ce que c'est les chiens ?
Alors, c'est très difficile de répondre à cette question parce que je pense que ça date de la même époque de ma vie, à savoir quand j'avais 2-3 ans. J'étais donc une enfant unique qui se parlait beaucoup à elle-même et donc j'ai développé cette passion pour le langage qui venait aussi d'une certaine incompréhension de certains mots, de la phonologie de certains mots, voilà, fascination. Et du fait que ma maman, un jour, est arrivée avec un chiot, je ne m'y attendais pas, et pendant longtemps, peut-être même encore, je dirais que c'est le plus beau jour de ma vie parce que j'ai eu cette surprise incroyable. Donc j'ai eu un chien qui était en fait ma sœur, puisque je n'avais pas de frères et sœurs.
Alors le chien, il s'est invité dans nos vies, alors là je parle de tous les humains, il y a combien d'années ? 10 000 ans ?
Oh bah...
Il a été domestiqué il y a 10 000 ans à peu
ouais,
près ?
Oui, à peu près, oui.
Vous allez nous raconter comment cela s'est passé. On dit de lui qu'il est le meilleur ami de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et de quand date cette expression ?
Ah, de quand date l'expression, ça je ne vais pas pouvoir vous dire, mais le meilleur ami de l'homme, c'est l'issue de la domestication. Donc il y en a peut-être plusieurs, les meilleurs amis d'hommes. Tous nos animaux domestiqués sont quelque part nos meilleurs amis, même ceux qui se font manger à la fin. Mais donc, ils sont devenus nos meilleurs amis parce que un jour, il y a eu rencontre entre un homme et probablement un loup qui était, on va dire, légèrement génétiquement modifié et qui avait cette on va dire, absence de peur de s'approcher de l'humain. Et donc, progressivement, l'humain a commencé à utiliser, on va dire, ce loup-chien.
Ce loup spécial.
Ce loup un peu particulier qui a moins peur. Et donc, au fur et à mesure du temps qui passe, il est devenu notre meilleur ami parce qu'il nous a rendu des services incroyables, berger, chasseur, etc. Même les chiens de canapé, au final, nous rendent des services.
Et tous les chiens ont le même ancêtre, qui est le loup gris.
Alors, Oui, mais en même temps, il y a plusieurs lignées qui sont apparues à différents endroits de la Terre. Et du coup, ils ont des caractéristiques physiques différentes. Oui, on peut dire le loup gris, mais certainement avec certaines variations selon l'endroit de la Terre.
Moi, j'ai tout appris en lisant votre livre, Annelise Giraud, mais j'avais pas noté que le dimorphisme morphologique chez les chiens est le plus important parmi tous les mammifères. Entre un chihuahua et un dogue allemand, il y a quand même des grosses différences, alors qu'ils appartiennent à la même lignée.
À la même espèce.
La même espèce.
Typiquement, c'est nous qui les avons fait. C'est pour ça que j'aime bien dire que c'est des organismes génétiquement modifiés, parce que on les a fait tels qu'ils sont, avec leurs caractéristiques et leur morphologie complètement différente. Le caniche, justement, pour prendre cet exemple, a été sélectionné pour sa capacité, enfin pour son poil, qui est, on va dire, hydrofuge, et donc il était utilisé pour aller récupérer les canards dans les marais, et sans mouiller son poil, sans se mouiller.
Donc caniche, c'est la même chose que canard ? Enfin, ça a un rapport avec canard ?
Oui, exactement. Ça vient de...
On les appelle caniche ?
Ça vient de la récupération des canards. Ouais.
Vous avez une broche qui montre un canard sur votre veste ?
Ouais,
c'est un hommage aux caniches, indirect ?
Je n'y avais pas pensé, mais c'est une interprétation possible.
Vous racontez donc un loup qui avait une anomalie génétique, s'est approché d'un humain, peut-être un enfant, plus que ses congénères. Ça veut dire que notre sociabilité dépend de certains de nos gènes ?
Je pense que oui. Enfin, nos gènes contrôlent nos comportements. J'espère que tout le monde en est convaincu maintenant. Et l'aspect social est une des théories qui conduisent au langage, justement. Mais effectivement, l'idée, c'est que un loup qui aurait eu une certaine mutation qui le rend hyper sociable, mais peut-être aussi ignorant de la peur, s'est approché de l'humain, peut-être effectivement d'un enfant. Enfin, ça, on ne saura jamais. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les gènes qui contrôlent cette hyper sociabilité, on les retrouve dans une maladie qu'on appelle le syndrome de Williams, dans laquelle les enfants sont justement hyper sociaux, avec une déficience intellectuelle et cette incapacité à voir le mal et à pouvoir se défendre, qui fait que les adultes qui sont autour d'eux vont s'occuper d'eux peut-être plus que d'autres enfants. Et c'est peut-être ça qui s'est passé au moment de la domestication du chien.
Est-ce que le chat a été domestiqué aux mêmes endroits que le chien ? Est-ce que d'ailleurs les chats sont autant domestiqués que le chien ?
C'est une bonne question. Donc, je pense que à l'heure actuelle, où on leur donne de la nourriture, on peut dire qu'ils sont peut-être autant domestiqués que le chien. Mais l'histoire n'est pas la même, dans le sens où les chats ont été utilisés par l'homme pour nettoyer, on va dire, les greniers qui contenaient le grain. Et donc, le chat était utilisé par l'homme pour chasser les rongeurs et les nuisibles. Donc, il n'y a pas ce même rapport d'échange de nourriture au départ. Donc, il y a moins probablement cette dépendance à l'homme vis-à-vis de l'échange de nourriture.
Annelise Giraud, il va falloir pardonner la naïveté de mes questions, mais comment est-ce que le chien a appris, quand il était utilisé par les humains pour chasser, qu'il devait ramener les proies et non pas les manger ? Comment est-ce qu'on lui apprend ça ?
Bonne question. Ça fait peut-être partie des comportements justement hyper sociaux qui fait que le chien revient au lieu de repartir.
Parce qu'il attend une récompense peut-être ?
C'est possible que l'humain lui donnait cette récompense, mais peut-être qu'on peut envisager tout simplement que s'il partait avec sa nourriture, redevient sauvage et il serait plus un chien. Donc il y a peut-être un instinct originel de rapporter la nourriture.
Alors le chien, enfin sa domestication a aidé Homo sapiens pour la chasse, on en parle. Est-ce que ça a aidé à la disparition de Néandertal ? au motif que qui va à la chasse gagne sa place s'il est bien accompagné.
Le fait qu'ils auraient pas rencontré les chiens.
Que l'Homo sapiens a aidé, a été aidé par les chiens, de sorte que dans sa rivalité vis-à-vis de Néandertal, il a eu une sorte d'avantage par procuration.
C'est possible. C'est possible. Je saurais pas.
Mais la science n'a pas conclu.
La science n'a pas conclu, oui, ça je pense. Oui, c'est vrai que. Bon, il y a moins de preuves de Néandertal avec les chiens. C'est peut-être parce que justement, peut-être que la sociabilité était différente chez Néandertal et qu'ils ne se sont pas mutuellement reconnus.
Et le langage chez Néandertal, on sait ce qu'il était ?
On appelle ça un proto-langage. Je pense que c'est vraiment très difficile de savoir ce qu'il était. Justement, on étudie les gènes de Néandertal pour essayer de comprendre l'apparition du langage, puisqu'il y a eu certaines mutations. Et on peut faire des choses absolument magnifiques, par exemple, d'injecter des gènes de Néandertal dans des organoïdes, donc qui sont des amas cellulaires qui se développent à partir de cellules pluripotentes, pour voir ce que ces organoïdes sont capables de faire avec ces gènes de Néandertal. Mais sinon, on est quand même assez incapable de dire à quoi ressemblait le langage de Néandertal.
Autre question naïve. Mmh. Elles seront toutes d'ailleurs naïves, c'est même pas la peine que je l'annonce. Les chiens courent moins longtemps que les hommes, ils sont moins endurants, mais ils courent plus vite. Est-ce que cette caractéristique a joué un rôle dans leur domestication ?
Je ne sais pas. C'est vrai que les félins aussi courent très vite,
mais pas longtemps. Il n'y a pas plus endurant que les humains.
À ce qu'on dit, mais effectivement, les chiens de traîneau, en fait, c'est une histoire de motivation. Je veux dire, les chiens peuvent courir très longtemps après un sanglier ou je pense que tout dépend de leur motivation, si c'est le jeu ou si c'est l'absolue nécessité de se nourrir. Donc, je conclurai pas sur le fait que l'homme est forcément plus endurant.
On n'a jamais vu un chien courir un ultra trail.
Oui, c'est vrai. Mais donc c'est là, on en revient à la motivation, parce que
peut-être ça les amuse pas, c'est ce que vous dites.
Oui, probablement. Ou alors si ça amuse foncièrement son maître, là il sera capable de tout.
Annelie Giraud, vous êtes neuroscientifique, donc le cerveau vous intéresse, et vous parlez dans l'un de vos chapitres de votre livre de l'ocytocine, et vous racontez qu'un simple échange de regard entre un chien et un humain entraîne une augmentation du taux d'ocytocine chez les deux partenaires. Chez le chien et chez l'humain. Alors ça signifie quoi ? C'est l'indice de quoi ? Et est-ce que ça marche aussi avec les vaches et avec les gorilles ?
Donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment spécifique aux chiens. On dit que, enfin, il y a eu des études en imagerie cérébrale qui montrent que les chiens activent des régions qui sont par ailleurs activées chez l'humain dans les rapports amoureux. Donc le chien serait un amoureux. Donc l'échange d'ocytocine est particulièrement grand dans ce contexte-là. Pour ce qui est des singes, ils en ont rien à fiche de nous, les singes, en fait, des humains.
Donc, ils sont très proches génétiquement de nous, en tout cas plus proches de nous que les chiens, qui sont très loin de nous génétiquement. Donc,
c'est
comment expliquer que la relation avec les chiens soit plus forte, alors que génétiquement, ils sont très éloignés des humains ? Question naïve.
Non, c'est pas une question naïve, parce que c'est exactement la raison pour laquelle le chien est un modèle très intéressant sur le plan de la neurobiologie du langage, puisque c'est un modèle d'appétence pour le langage par proximité de l'humain et certainement par dépendance vis-à-vis de l'humain, alors que les primates non humains qui sont effectivement génétiquement très proches de nous, on ne les intéresse pas du tout. On n'a pas du tout le même passé de domestication. Donc ça, c'est clair. Avec une vache, je pense que oui, il y a des éleveurs de vaches qui peuvent avoir un rapport très particulier avec une vache. Et il n'est pas exclu qu'il y ait
augmentation
du taux d'ocytocine chez les deux partenaires. Pareil chez les chevaux. Et puis peut-être pareil chez les singes, s'il y a une relation particulière. Et les singes entre eux, c'est certainement évident.
Alors, on apprend plein de mots en vous lisant, là, Giraud, par exemple, le mot rétrognatisme, avec un H après le T. Qu'est-ce donc ?
Donc, le rétrognatisme, c'est le fait que la mâchoire se retire, on va dire, que le menton diminue. Ça s'accompagne...
Au cours de l'évolution.
Au cours de l'évolution, exactement. Donc, l'homme moderne est beaucoup plus rétrognate que l'homme ancien. Et donc, il y a des relations entre ce rétrognatisme et le fait d'être devenu sédentaire agriculteur, puisqu'à partir de ce moment-là, on s'est mis à manger du blé, c'est-à-dire des substances plus molles, on va dire, de l'amidon. Des substances plus molles que de déchiqueter de la viande. Et du coup, il y a eu moins besoin d'avoir cette parfaite, on va dire, alignement de la mâchoire inférieure et de la mâchoire supérieure. Ce qui, sur le plan du langage, serait à l'origine des sons particuliers qui sont liés au fait qu'on a les dents de la mâchoire supérieure en avant par rapport aux dents de la mâchoire inférieure. C'est le cas, par exemple, du F, du son F.
Mais voilà, ça vient du fait qu'on n'a pas besoin des dents, on n'a plus besoin des dents pour déchiqueter des proies, par exemple, des animaux morts qu'on mangerait, la viande.
Oui, je pense. Et ce que je trouve très ironique, c'est que nos dentistes s'acharnent à ce qu'on ait un alignement parfait entre les dents du haut et les dents du bas. Donc, ils le font parce que sinon, on risque d'avoir un déchaussement des dents. Mais en même temps, ils luttent contre l'évolution.
Donc, si on parle, c'est en partie dû au fait qu'on a commencé à manger du blé, après s'être sédentarisé.
Non, je dirais pas ça. C'est juste que les sons se sont diversifiés et se sont adaptés au fait qu'on est devenu plus rétrognate. Mais non, je pense que on peut tout à fait envisager qu'il y avait ce langage ou proto-langage avant le rétrognatisme.
Alors, vous parlez aussi du microbiote. Quel rôle joue-t-il dans notre relation au chien ?
En fait, je ne sais pas si on peut dire qu'il joue un rôle, mais ce qui est certain et ce qui est montré, c'est que notre microbiote, qui, on le sait maintenant, influence certains de nos comportements et certains aspects de notre santé, notre microbiote est plus proche de celui du chien que de tout autre animal, y compris des animaux qui peuvent être proches génétiquement de nous, ou des cochons. Et donc, c'est normal dans le sens où on partage notre vie avec eux.
Notre nourriture aussi.
On partage la nourriture. Et de fait, on va partager certains comportements qui peuvent être induits par notre microbiote.
Vous voulez dire que le microbiote a un effet sur l'activité du cerveau ? Et dès lors que deux espèces ont des microbiotes voisins, ça peut aider à leur relation ?
Je ne m'aventurerai pas à être
catégorique. C'est pas une causalité, mais c'est une corrélation peut-être.
Moi, je le vois plus comme corrélation, mais on est dans les hypothèses qu'il faudrait tester.
Il y a une autre hypothèse que vous émettez dans votre livre, Anne Giraud, c'est le psychobiote. C'est quoi le psychobiote ?
Le psychobiote, justement, ça serait la partie du microbiote qui va régir certains comportements, tout simplement.
Et le dingo, qui est un truc bizarre, une sorte de superposition quantique du chien et du loup. C'est-à-dire que c'est des chiens, alors c'est des chiens ou pas ?
C'est des chiens, mais qui ont été réensauvagés. Donc ces chiens qui viennent plutôt d'Asie se sont retrouvés en Australie et se sont réensauvagés de telle sorte que c'est pas une espèce spécifique, mais disons que en Australie, on fait en sorte que le dingo n'ait plus de reproduction avec le chien
pour mais que pourtant, l'espèce elle est
se diverge.
Elle la est reproduction chien-dingo est possible.
Elle est possible.
Donc c'est la même espèce.
C'est la même espèce. Mais leur comportement est très proche de celui du loup. Mais on voit aussi que leur façon de communiquer entre eux est très particulière. Elle peut être différente du chien et du loup. Notamment, ils émettent des sons qui sont destinés à informer des individus qui vont être très éloignés d'eux. Donc ça ne va pas être le même type de son que si on est en meute très rapprochée. Et...
Donc ce n'est pas les mêmes sons de vocalisation que pour le chien.
Non, il y a des différences, oui.
Qu'on peut expliquer à partir des lois de l'évolution ? Et les contextes dans lesquels il
Moi, je pense le contexte essentiellement. Ouais, le contexte, puisque voilà, les sons qu'on va émettre dépendent beaucoup de l'environnement. Si on veut informer quelqu'un qui est très loin, ou si on est dans un environnement qu'on dit ouvert, ou un environnement plus fermé, qui est par exemple dans une forêt, c'est clair qu'on va pas émettre les mêmes sons. Et ça peut diverger très vite. Il n'a pas besoin d'évolution, je pense.
Alors, je vais poser une question, peut-être stupide, hein, mais est-ce qu'il y a différentes façons pour un chien d'aboyer ? Est-ce qu'il y a un dictionnaire des aboiements ? Est-ce qu'on est capable de comprendre ce qu'ils veulent exprimer par telle ou telle façon d'aboyer ? Tous les chiens de catégories différentes aboient de la même façon et pour les mêmes raisons ?
De races différentes. Alors, il y a des aboiements qu'on appelle barking, donc ça c'est un type de son, et puis il y a plein d'autres types de sons, de vocalisations que font les chiens qui n'ont rien à voir avec l'aboiement. Ils peuvent couiner, les mots me viennent plus en anglais qu'en français, mais...
Allez-y.
Non, c'est pas grave. Oui, qu'est-ce qu'il y a alors en français... Je ne vais pas y arriver en français.
Mais couiner, on dit aussi pour des humains. Et donc, quand on dit couiner à propos des chiens, est-ce qu'il n'y a pas une dose d'anthropomorphisme ?
À partir du moment où on leur marche sur la patte et qu'ils réagissent en couinant, je pense qu'il n'y a pas trop d'anthropomorphisme. Je pense que ça pourrait être très similaire. Mais oui, cette histoire d'anthropomorphisme est très intéressante parce que... on va dire depuis les années 60-70 où on étudie les animaux, les chercheurs ont énormément lutté contre l'anthropomorphisme. C'était très mal vu de prêter des caractéristiques humaines aux animaux ou aux plantes ou quoi que ce soit. On se libère un peu de ce que j'appelle l'anthropodénie. Et en fait, on se rend compte, grâce aux neurosciences hein, notamment, mais aussi grâce à l'éthologie, que finalement, ils ne sont pas si loin de nous. Le règne animal partage quand même beaucoup de choses avec nous.
Dans le livre que vous avez écrit, Annelise Giraud, vous parlez d'une étude qui a montré que lorsqu'on parle à un chien, il regarde surtout notre bouche. Ça veut dire que, pour lui, le mouvement des lèvres apporte des informations. Autant que le son, peut-être à la place du son.
Alors, ils sont très perceptifs, comme je le dis dans le bouquin. C'est des experts de nous. Ils sont beaucoup plus experts de nous que n'importe quel membre de notre famille.
Experts de leur maître ou de leur maîtresse, mais pas de n'importe quel humain.
Non, ils peuvent être experts de la famille, des mouvements dans la famille et tout ça. Donc, c'est des experts parce que c'est leur métier. Ils n'ont que ça à faire, quelque part. On leur demande... Alors, je ne dis pas tous les chiens, parce qu'effectivement, les bergers, il y a encore des chiens qui travaillent vraiment. Mais le chien qui ne travaille plus, celui qu'on a sur nos canapés, etc., lui, ces chiens, ils ont... envie de faire quelque chose, de travailler quelque part, et du coup, ils deviennent experts de nous. Donc, ils sont experts de nos mimiques faciales, mais effectivement, quand on leur parle, ça va être la bouche qui va pouvoir compléter ce qu'ils perçoivent.
Mais est-ce qu'ils entendent toutes les fréquences que nos bouches émettent ?
Oui, ils vont au-delà du spectre de la parole.
Ils entendent tout ce qu'on dit, en fait ?
Oui, oui, oui.
Et est-ce que nous, on entend tous les sons qu'ils émettent ? Est-ce que nos oreilles sont capables d'entendre des sons très aigus que les chiens peuvent émettre ?
Alors, je ne peux pas répondre pour les chiens, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a longtemps pensé que les lapins n'émettaient aucun son. Mais en fait, parce ils parlent avec des sons qu'effectivement on n'entend pas. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est des proies. Donc les proies ont intérêt à vocaliser sur des fréquences qui ne sont pas perçues par les prédateurs. Donc, bon, pour revenir aux chiens, je ne sais pas s'ils vocalisent en ultrasons. C'est une question.
Donc il y a des proies qui s'arrangent pour communiquer dans des fréquences inaudibles par les prédateurs. Une sorte de communication secrète, en fait, cryptée.
C'est une théorie qu'on développe dans un article qui n'est pas encore publié, mais qui, j'espère, le sera bientôt.
Il y a un petit suspense encore.
Il y a un petit suspense, c'est une théorie. Voilà.
Vous parlez aussi de l'effet McGurk.
Oui.
Alors, Gurk, ça s'écrit G-U-R-K.
Ouais.
Qu'est-ce donc ?
Alors, l'effet McGurk, c'est le fait que si on dissocie ce que je vais prononcer de façon auditive et la façon dont je le prononce du visuel, donc avec mouvement de la bouche, si on le dissocie et qu'on présente à quelqu'un deux sons, enfin le son et l'image qui sont dissociés, on va pouvoir percevoir un percept auditif qui va être entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Voilà.
Le cerveau fait une sorte de moyenne.
Il fait, ouais, on peut dire qu'il fait une sorte de moyenne, oui, on peut dire ça. Ouais.
On peut donner des exemples de syllabes, par exemple, qui sont différentes.
Alors, on peut avoir ba et da, et avoir le percepta, si.
On voit les deux séparément.
Voilà.
Enfin, on entend et on voit séparément les deux choses.
C'est ça.
Alors, vous avez eu des étudiants, des post-docs, des thésards qui sont intéressés donc à ce que les chiens peuvent émettre comme signaux, à leur façon de comprendre notre langage, et vous montrer qu'il existe une bande qui s'appelle la bande delta, une bande de fréquence en fait, et qui apprend beaucoup de choses sur la façon dont ça se passe.
Alors, c'est intéressant, puisque ces fréquences, on les retrouve aussi bien dans le son émis que dans notre cerveau. Donc il y a une correspondance entre les rythmes avec lesquels on va prononcer et les rythmes avec lesquels notre cerveau va recevoir, admettons, la parole. Et donc, il y a différents régimes de rythmes. Donc delta, c'est un rythme lent.
C'est le rythme des phonèmes, en fait.
Alors, c'est pas le rythme des phonèmes, ça va être un rythme assez lent, qui va être plutôt celui de courts groupes de mots, et c'est aussi celui qui nous permet de percevoir la prosodie. La prosodie, elle va venir à la fin de la phrase, par exemple.
Mais ça n'a rien à voir avec la fréquence des sons émis, on est
non, alors, on n'est pas dans le domaine des fréquences audio, on est dans le domaine du rythme. Et donc, un rythme, ça a aussi une fréquence. Donc, on est dans des fréquences très basses, mais qui ne sont pas les fréquences audibles. C'est des rythmes. Et donc, ce qu'on a montré, c'est que, alors que l'humain a développé une perception syllabique ou une production syllabique, auquel correspond un autre rythme qui est le rythme θ, qui est entre 4 et 7 Hz.
Delta, c'est entre 2 et 3 ?
Entre 1 et 3.
Entre 1 et 3 par seconde, donc.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, nous, on a ce découpage syllabique. Notre cerveau va découper la parole en syllabes. Donc, quand je vous parle, on a un flux continu. Donc, le problème du découpage est extrêmement important, puisqu'on ne va pas pouvoir traiter toutes les informations. Il va falloir qu'on fasse des paquets. Donc, c'est, on va dire, une théorie quantique.
On va y revenir.
Et donc, en fait, ce qu'on a vu chez les chiens, en faisant de l'électroencéphalographie, donc en mesurant vraiment ce qui se passe dans leur cerveau, lorsqu'ils écoutent des sons de parole, on a vu qu'eux ne reçoivent pas la parole au rythme syllabique, même si on leur parle avec une syllabicité très forte.
Ça veut dire qu'on parle trop vite pour eux ?
Quelque part, on parle trop vite pour eux, en effet. Et donc, ce delta est le rythme de leur propre production. C'est-à-dire, quand eux, ils vont aboyer au rythme delta.
Donc,
ils vont
percevoir, trois fois par seconde.
Voilà. Ils vont percevoir notre parole avec leur propre capacité de perception, qui elle-même correspond à leur capacité de production. Alors, j'espère que c'est assez clair. Et donc, voilà, en fait, la théorie qu'on a, c'est qu'effectivement, l'homme a divergé dans une capacité d'intégration plus rapide qui permet des échanges plus denses.
Plus d'informations.
Plus d'informations par unité de temps. exactement. Et donc, les chiens, dans une certaine mesure, ils sont capables de comprendre ce qu'on dit, mais on ne va pas pouvoir faire de longs discours avec eux. Ils vont, parce que à tout ça se rajoutent des capacités mnésiques. Donc, ils ne sont pas câblés, on va dire, pour avoir cette densité, recevoir cette densité d'informations.
Mais sans avoir ces informations, qui sont le résultat de vos recherches, est-ce que les maîtres et les maîtresses de chiens n'avaient pas compris que pour être compris par les chiens, il faut leur parler plus lentement, ce qui s'observe dans la pratique?
Tout à fait. Donc ça, c'est la même chose qu'on observe chez les bébés. Donc les mamans ou les papas, enfin, vont parler.
On va dire les parents.
Les parents, voilà. vont parler à leur enfant très spontanément, à leur nouveau-né, on va dire, avec une voix qu'on peut dire un peu niaise, mais qui montre qu'ils ont tout à fait se sont adaptés aux capacités de compréhension du nouveau-né, parce qu'on voit tout de suite, en fait, si ce qu'on dit est reçu ou pas. Et en effet, lorsqu'on parle aux chiens, on a ce ralentissement de la parole parce que immédiatement on a le feedback. Est-ce qu'ils nous comprennent? Est-ce qu'ils nous comprennent pas?
Est-ce qu'il y a une relation entre le poids d'un animal, un chien en l'occurrence, et la fréquence des sons qu'il émet? Et là, je parle de la fréquence auditive. Parce que plus ils sont gros, plus leur aboiement, leur grognement sont graves.
Tout à fait.
Comme chez les humains.
Donc, il y a cette corrélation, effectivement très forte, entre la taille, pas seulement les chiens, hein, la taille de l'animal et la fréquence audio, acoustique, avec laquelle ils vont émettre des sons. Par contre, au niveau du rythme, on va avoir une très grande stabilité à travers les espèces. Et ça aussi, c'est le fameux article qu'on attend avec grand suspense. Voilà. Mais...
C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que toutes les races de chiens comprennent ce que nous disons si on respecte la bande delta que vous avez citée tout à l'heure, entre 1 et 3 Hz. Si on parle à cette fréquence-là, à ce rythme-là, toutes les espèces de chiens, du chihuahua jusqu'au dog allemand, comprennent à peu près ce qu'on raconte. Est-ce qu'il y a des races qui comprennent mieux d'ailleurs que d'autres?
Alors, bon, la théorie voudrait en effet que si on ralentit notre parole, il n'y aura pas trop de différence entre un gros chien et un petit chien. Et la question ?
Et la question, c'était, est-ce que il y a des races de chiens qui comprennent mieux ce qu'on dit que d'autres ?
Donc, il y a des races de chiens qui sont, on va dire, plus faciles à étudier. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'ils comprennent mieux, ils sont plus faciles à étudier? Bon, par exemple, les chiens de berger, donc là, toute la famille des doodles, donc qui sont des chiens mélangés avec caniches, le caniche étant réputé pour son intelligence, donc je ne sais pas ce qu'on entend vraiment par intelligence, mais entre autres la compréhension de la parole. Donc je pense que c'est vraiment surtout cette facilité de les étudier, et notamment avec l'électroencéphalographie, on a besoin d'un cerveau relativement gros,
donc on ne peut pas
étudier les
sur des petits chiens. Et vous dites aussi que le plus virtuose en matière de langage de chien, si j'ose dire, c'est le husky.
Ah, il est virtuose parce que, alors,
il peut dire I love you.
Il est réputé pour ne pas aboyer, mais être plus dans le hurlement, c'est-à-dire plus proche de ce qu'un loup pouvait ou peut produire. De facto, il vocalise plus, c'est-à-dire les choses se passent plus à l'arrière de sa gueule que dans on va dire le regroupement des mâchoires. Donc effectivement, il peut moduler énormément ses vocalisations jusqu'à dire des choses du style I love you.
Ouais, enfin là, il y a un petit peu d'anthropomorphisme, non?
Bon, il y a plein d'exemples. Oui.
On trouve sur Internet, oui, des vidéos qui montrent ces chiens faire des déclarations d'amour.
Mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Je veux dire, on peut les entraîner à faire autre chose que I love you, mais ils peuvent être entraînés à faire ces vocalisations qui, enfin, ils ont une capacité de moduler leur vocalisation qui est supérieure à celle d'autres chiens.
Alors, d'où vient que nous, les humains, nous sommes capables de prononcer des syllabes avec des voyelles, des consonnes, et que les chiens en sont empêchés? Est-ce que c'est des raisons qui sont liées à la structure de la bouche, de la gueule, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons plus cérébrales?
Donc, Il y a la fameuse position du larynx qui est invoquée dans l'évolution de la capacité de parler chez l'humain. Donc clairement, le chien, la position du larynx est très très loin. Donc il y a des incapacités morphologiques qui sont rédhibitoires pour produire le langage. Après, toute la partie cérébrale est en interaction, c'est-à-dire que ce qu'on prononce, on l'entend, et ce qu'on prononce, c'est ce qu'on peut produire avec notre cerveau. Et visiblement, quand même, les gènes qui sont incriminés dans l'évolution du langage ont plus ou moins toujours quelque chose à voir avec la capacité articulatoire.
Mais ça veut dire que le cerveau des chiens, il est au bord du langage. Il leur manque pas grand-chose.
C'est pour ça que c'est un modèle génial. Parce que, en ce qui concerne l'humain, on n'arrive pas très bien à dissocier la perception de la production. Alors, par exemple, dans la perception de la parole, il y a une partie de la perception de la parole qui pourrait s'expliquer par nos capacités articulatoires et l'interaction entre les régions articulatoires et les régions auditives. Donc le chien est un modèle vraiment intéressant du point de vue neurobiologique parce que il peut comprendre la parole, mais il est incapable de la produire. Donc c'est un modèle expérimental très intéressant.
Annie Giraud, en physique, on aime bien faire des expériences de pensée. Je ne sais pas si c'est le cas dans votre discipline, les neurosciences. Mais imaginons qu'on prenne un chien, on lui retire sa gueule et on la remplace par une bouche humaine avec tout ce qui va avec, la gorge, le larynx. Donc vous dites que cérébralement, il est au bord du langage. Mais si mécaniquement et morphologiquement, on lui donne notre bouche, qu'est-ce qui va en sortir ?
Je pense pas quelque chose d'aussi bien que nous, parce que justement la libération de l'articulation dans le cerveau humain, c'est morphologique, mais c'est aussi les capacités motrices de l'articulation fine. Donc ça prendrait, peut-être que ça marcherait au bout de quelques milliers d'années ou millions d'années.
Ouais, patient.
Faudrait être patient.
Ah, je pose la question dans l'autre sens. On prend un humain, on lui retire son cerveau, on le remplace par un cerveau de chien. Qu'est-ce que ça donne ?
Ça donne j'ai envie de manger.
Que ça ? Et dans votre livre, je parle de physique parce que vous parlez de quantique dans votre livre, c'est page 109, vous dites, je vous cite... Vous dites ces phénomènes oscillatoires qui ont lieu dans le cerveau sont imposés par le caractère quantique de la transmission synaptique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Est-ce que c'est vraiment quantique ou est-ce que c'est une façon de dire qu'il y a des...
C'est une analogie.
Voilà.
Alors, ce que j'essaye de dire là, c'est qu'on a ces phénomènes oscillatoires qu'on peut mesurer. Donc, on fait un électroencéphalogramme, on va avoir une mélange... on récolte sur la surface du crâne un mélange de fréquences qu'on peut ensuite décomposer en fréquences élémentaires. Donc, c'est celles dont on parlait, delta, theta, etc. Et là, on voit quelque chose qui s'apparente à une oscillation, donc on appelle ça des oscillations neurales. Et là, je veux insister sur le fait que ces oscillations neurales, qu'il n'y a pas d'oscillation vraiment dans le cerveau, et que il n'y a que des phénomènes extrêmement discontinus, et que j'appelle quantiques.
Au sens de quantifier, en fait.
Ouais, des petits paquets d'informations. Et donc, métabolisme presque de base qui fait qu'on doit régénérer les neurotransmetteurs contraint tout un tas d'autres opérations derrière. Et donc, il ne faut pas l'oublier qu'il y a cette capacité des neurones d'émettre des potentiels d'action et d'être dépendant du coup de la cellule elle-même, enfin des caractéristiques de l'interaction entre neurones pré- et neurones post-synaptiques.
Alors, vous expliquez comment les chiens ont évolué donc au cours de l'évolution, mais est-ce qu'on pourrait augmenter leur performance en matière de langage par un système éducatif qui leur serait adapté ?
Alors, très bonne question, très bonne remarque. Donc, certaines personnes ont commencé à donner aux chiens une certaine capacité de communiquer à l'aide de boutons poussoir. Donc au départ, c'est une orthophoniste aux États-Unis qui a commencé à donner quelques boutons poussoirs à son chien et qui s'est rendu compte qu'il y avait une certaine un certain enchaînement qui était possible. Donc le chien pouvant utiliser un bouton après l'autre pour composer. Alors le sujet de la compositionnalité chez l'animal, c'est un grand sujet. Donc je ne m'aventurerai pas à parler véritablement de compositionnalité en ce qui concerne le chien, mais je pense qu'il va falloir y venir, il va falloir s'ouvrir à cette question. Donc en effet, l'expérience a été reproduite ensuite à plus large échelle, et donc on a ce chien superstar qui s'appelle Bunny et qui a 8 millions d'abonnés sur TikTok et sur d'autres plateformes, ce chien ayant une centaine de boutons poussoirs. Alors on ne lui a pas donné 100 boutons poussoirs d'un coup. On commence par quelques-uns et on donne progressivement les boutons poussoirs. Donc, alors, juste pour expliquer, parce que peut-être c'est pas clair, un bouton poussoir égale un mot. Un mot qui est donc vocalisé par le bouton poussoir. Donc j'appuie et il y aura le mot manger ou alors le mot sortir. Voilà, donc on commence avec ce genre de boutons qui sont très vite acquis par le chien, parce qu'il veut sortir, il veut manger. Enfin, je crois que manger, d'ailleurs, on l'élimine très vite, parce que sinon, il passe son temps à appuyer. mais jouer, de l'eau, etc. Et donc, on augmente progressivement. Et là, l'expérience devient intéressante à partir du moment où le chien va pouvoir signifier avec son lexique de mots qu'il a à sa disposition des choses plus complexes.
Il va composer des phrases.
Alors, il peut, on va dire, composer, c'est-à-dire associer un certain nombre de mots. Donc, encore une fois, je ne m'aventurerai pas à dire que c'est véritablement de la compositionnalité, même si, voilà, on s'en rapproche. Mais surtout, le rajout de boutons poussoirs, de nouveaux mots, on va dire, c'est vraiment comme lorsque l'enfant commence à parler, l'adulte rajoute des mots, explique les concepts, etc. Et là, le chien guide vraiment le maître à rajouter des boutons poussoirs. Donc c'est comme ça que la maîtresse de Bunny lui a rajouté le bouton rêve, parce que le chien disait nuit, parler, drôle. Et au bout d'un moment, ces associations lui ont fait penser, mais ce chien me parle de rêve, en fait.
Alors, c'est-à-dire que le chien il est presque capable d'écrire sans être capable de parler, ou j'exagère? Il compose des phrases, enfin oui. Des choses qui sont structurées un peu comme des phrases.
Oui. Parce qu'il a besoin, enfin parce que en fait, à force d'avoir ses boutons, les nuances sont possibles. Donc on peut qualifier un mot par un autre mot.
Et c'est un chien exceptionnel.
C'est un chien exceptionnel. Après, ce qu'il faut dire, et c'est important de le dire, c'est que l'expérience Bunny n'a pas de valeur scientifique. C'est-à-dire, moi je le vois comme preuve de concept. Il n'y a pas de webcam en continu chez la maîtresse de Bunny. Ce qu'il faudrait qu'il y ait, puisqu'il faudrait qu'on puisse évaluer les contextes en permanence. Donc, je crois qu'ils sont en train d'y venir, en fait. Mais il y a surtout un chercheur qui s'appelle Federico Rossano, qui, lui, a décidé de vraiment mettre cette expérience à l'épreuve de la science et qui a donc équipé des milliers de chiens dans le monde qui sont en train d'être étudiés. Et d'après ce qu'il m'a dit récemment, il y a quand même pas mal de chiens qui arrivent à 50 mots à leur disposition. Évidemment, c'est passionnant et nous avons une collaboration naissante avec ce chercheur qui est en Californie et pour étudier ces chiens qui sont éloquents.
Est-ce que cette étude permettrait de dire que les chiens présentent une cognition qu'on peut rapprocher de celle d'un enfant préverbal ?
Je pense qu'on peut dire ça et on n'est pas au bout de l'expérience. Donc préverbal, donc là on est peut-être au-delà du préverbal puisque là il y a quand même un certain niveau, on va dire, de verbalisation à travers la patte, puisque c'est la patte qui appuie. Donc ça c'est très important aussi de comprendre la motricité liée à cette forme de communication. Donc le chien, comme il doit appuyer sur les boutons avec sa patte et qu'il doit trouver le bon bouton qui est donc sur un tapis de boutons, il faut qu'il se repère géographiquement, enfin topologiquement, on va dire.
Spatialement.
Et donc ça lui prend du temps. Donc il va faire des phrases qui sont quand même assez lentes. Tout ça pour dire, j'ai perdu.
Mais est-ce qu'il a conscience quand il fait cela que il est dans un processus de communication? Et pas simplement de jeu.
Donc ça, c'est extrêmement important, justement, qu'il y ait un tuteur et donc le comment dire, learner.
Un tuteur, un éducateur, un professeur.
Oui, mais l'autre.
Un élève.
Un élève, voilà. Un tuteur et un élève. Donc c'est extrêmement important. C'est ce qui se passe chez les oiseaux. Hein. Les oiseaux, ils n'arrivent pas à chanter comme ils chantent sans avoir eu un tutorat. Donc l'expérience.
Les oiseaux sont éduqués à chanter.
Oui.
Il y a des profs. Il y a des profs.
Ben en général un parent.
Des profs à plumes.
Oui, des profs à plumes. Mais c'est un peu pareil les baleines, enfin tous ces animaux qu'on appelle vocal learners. Il y a cet aspect éducation. Donc pour l'expérience Bunny, je pense que et pour toutes les expériences avec ces boutons poussoirs, je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait cette relation au départ unique entre le tuteur et l'élève, même si après peut-être que ça peut se généraliser. Donc pour savoir s'il joue ou pas, non, il joue pas puisqu'il va être en train de dormir et puis soudainement aller utiliser ses boutons pour dire j'ai mal à la patte, quoi.
Donc il a compris que c'était un moyen de communication avec nous.
Tout à fait, tout à fait.
Alors on apprend beaucoup de choses, je l'ai dit dans votre livre Annelie Giraud, enfin moi j'ai tout appris. Enfin, tout ce que je sais sur les chiens, je l'ai appris grâce à vous. Mais il y a une chose qu'on n'apprend pas, c'est qu'est-ce qu'on voit quand on entre dans votre laboratoire? Ça ressemble à quoi? Il y a des chiens dans des cages? Comment ça se passe?
Mais pas du tout. Non, toutes nos expériences sont faites sur des chiens qui sont chez leur maître. Donc, en fait, on va dans des centres d'éducation canine.
Des centres d'éducation canine?
Mais oui.
Ça existe?
Mais bien sûr que ça existe. C'est pas des écoles. Mais peut-être qu'on va venir aux écoles pour chiens où il y aura également du langage. Non, des centres d'éducation canine. Et du coup, on peut sélectionner justement les chiens qui vont...
Qui ont des grosses têtes.
Qui ont des grosses têtes. Et surtout, on a besoin, quand on fait le EG, que le chien se tienne vraiment très, très calme, qui ne bouge pas pendant le EG. Donc, tous les chiens sont pas...
EG, ça veut dire
électroencéphalographie. Donc, non, c'est...
Donc, il y a une sélection, vous faites une sélection. Il y a un biais, donc.
Ah oui, il y a un biais, puisqu'on, effectivement, on prend les chiens qui sont les plus...
Calmes.
Éducables, les plus calmes, ouais, si vous voulez.
Et donc, il n'y a pas vraiment de laboratoire. Et quel est le matériel avec lequel vous arrivez dans ces centres d'éducation canine dont je viens d'apprendre l'existence?
On vient avec des moyens pour jouer des sons et puis les moyens pour enregistrer l'activité cérébrale, c'est-à-dire un système d'électroencéphalographie qui est portable.
Vous êtes combien? Deux, trois personnes?
Qui, tant que possible, sans fil, hein, pour pouvoir, parce que maintenant tout est wireless, donc on a cette chance-là. Vous disiez.
Vous êtes combien quand vous arrivez?
Mon éthologue, Héloïse, qui est une des héroïnes de ce livre, faisait tout toute seule.
Il y a deux héroïnes, un héroïne et un héros dans votre livre. Elle, c'est Héloïse, vous l'avez citée, et lui, c'est Théophane. Mais alors, vous racontez qu'ils ont arrêté la recherche après quelques années passées dans les laboratoires.
En effet, alors ces deux chercheurs que moi j'ai trouvé exceptionnels, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Héloïse a eu un parcours très remarquable. Elle est venue en post-doc chez moi, donc après sa thèse. Alors que moi je pensais qu'elle avait tout pour réussir une carrière académique, elle a décidé d'aller justement ouvrir un centre d'éducation canine pour vraiment étudier les chiens sur un autre plan que l'électrophysiologie. Mais je dois dire que Héloïse revient un petit peu à la science maintenant. Et Théophane, c'était encore plus intéressant, puisque donc lui, il s'intéresse vraiment aux animaux. Enfin, Héloïse aussi, mais lui, peut-être un peu plus largement à toutes les espèces. Et lui, son problème, c'est que les espèces animales sont en danger. Elles sont menacées de disparition. Sa priorité, c'est de sauver les animaux avant d'étudier leurs cognitions.
Tous les animaux, parce que les chiens, ils ne sont pas menacés de disparition.
Non, eux non, mais c'est vrai que, ce que je disais, Théophane avait un spectre d'animaux qui l'intéresse un peu plus large. Et le règne animal, effectivement, il faut peut-être le protéger avant de l'étudier.
Qu'est-ce qui se passerait, question alors là ultimement naïve, qu'est-ce qui se passerait pour les chiens si les humains disparaissaient d'un coup? Parce que les chiens redeviendraient sauvages, c'est-à-dire redeviendraient capables de trouver leur nourriture, ou est-ce qu'ils se laisseraient mourir de chagrin?
C'est une bonne question. Donc je pense que le chat aurait pas trop de difficultés à se réensauvager et à trouver sa nourriture. Les chiens, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je pense que il y a des espèces qui seraient sans doute beaucoup plus capables de se remettre à chasser, à trouver leur nourriture que d'autres qui sont des chiens de canapé et qui effectivement se laisseraient certainement mourir de chagrin.
Est-ce qu'on peut dire qu'il existe plusieurs cultures canines?
Oui, c'est un bon mot. Mais parce qu'ils ont été sélectionnés en fonction des tâches qu'on voulait leur faire accomplir. Donc, effectivement, le chien de chasse, peut-être que pour lui, ça trouver de la nourriture sera plus facile.
Sauf que cette fois, il la mangera au lieu de la rapporter à son maître.
Ben, oui. Il faudra peut-être.
Donc, il y a différentes façons de vivre la domestication. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut imaginer que certaines espèces qu'on peut déjà identifier seraient capables de redevenir vraiment sauvages?
C'est une question que je me pose, et en fait je me la pose en rapport avec le véganisme où il faut même plus utiliser la laine des moutons. Je pense que ça serait quand même compliqué. Ces espèces qu'on a modifiées génétiquement à notre service, on va dire. Je pense aux moutons justement qui sont très handicapés par leur laine. Donc, que deviennent nos moutons si on les tond plus?
Pourquoi ils ont de la laine si ça les handicape?
Ils ont de la laine.
D'un point de vue darwinien.
Ils ont de la laine parce que ceux qui avaient de la laine ont été sélectionnés. Et puis maintenant, ils ont de la laine. Ils sont complètement dépendants de l'humain pour, on a bien vu ce pauvre mouton australien qui tenait plus sur ses pattes parce que il avait trop de laine.
Alors, on est à la radio et quand on écoute la radio, maintenant, on peut choisir le rythme auquel l'émission est diffusée. C'est ce qu'on appelle le tempo scaling. Est-ce que vous l'utilisez dans vos recherches pour comprendre quels sont les rythmes de parole que les chiens comprennent mieux que d'autres?
Oui, en fait. C'est vrai qu'une expérience assez récurrente et assez simple, c'est de modifier le rythme de la parole qu'on leur fait écouter. Et donc, on a des résultats surprenants. Notamment, nous, humains, on va perdre très vite la capacité de comprendre quand la parole est compressée, donc va plus vite. Et le chien, un peu moins.
Il est moins handicapé que nous.
Il est moins handicapé.
Donc, si on parle trois fois plus vite, un humain va plus comprendre ce qu'on raconte.
Et le chien va être moins. Il va avoir aussi un déclin de sa compréhension, mais proportionnellement moins que l'humain.
Alors, je comprends pas, parce que du coup, on pourrait lui parler plus vite qu'on ne lui parle.
Alors, donc, c'est pas...
Simple.
Non, c'est pas simple, parce que le fait que son cerveau soit capable de tenir le rythme, c'est pas forcément lié à la sémantique et à sa capacité d'ingérer une succession d'éléments symboliques de la parole.
Est-ce que vos expériences sont encadrées par des contraintes de nature éthique? Il y a des protocoles qui sont interdits, d'autres recommandés. Comment ça se passe?
Ça devient de plus en plus compliqué pour la recherche animale. Alors, est-ce un bien, est-ce un mal? Ça, c'est une question éthique. Il y a de plus en plus de demande et de contrôle, voilà, ce qui est en partie logique, mais bon, qui est effectivement très contraignant. C'est pareil pour les recherches sur l'humain, sur les patients, voilà. Avec les chiens, il y a encore une petite un petit créneau.
Mais est-ce que vos recherches font partie de ce qu'on appelle l'expérimentation animale ?
Mais justement, c'est dans ce sens-là que je dis, il y a encore un petit créneau parce que, voilà, c'est pas des chiens de laboratoire. C'est plus comme les expériences qu'on va faire chez les enfants. Donc, c'est les parents qui vont nous amener leurs enfants, par exemple, qui ont une dyslexie. Il y a une explication qui est donnée à l'enfant. Donc, effectivement, on peut pas donner exactement aux chiens, mais on informe les parents, les maîtres. Donc, ça se rapproche plus de ça que ce qu'on appelle l'expérimentation animale.
Anne Giraud, pour conclure cette émission, la question qui était posée initialement, c'est est-ce qu'un jour nous pourrons faire parler les chiens ? Et la question que je reformule après vous avoir entendu, c'est est-ce que le fait de comprendre, comme vous nous l'avez expliqué, d'où vient que les chiens ne peuvent pas parler, ils sont seulement au bord de la parole, nous permet de comprendre d'où vient que nous, les humains, nous parlons ?
Oui, alors c'est compliqué parce que les chiens ne parlent pas, mais cette expérience des boutons poussoirs nous montre que quand même, au niveau, ils ont, comment dire, à partir du moment où on leur donne un minimum de lexique, il va pouvoir y avoir une élaboration de la pensée, notamment des questions existentielles telles que Bunny qui questionne énormément son statut chien versus humain. Donc pour elle, elle se sent pas la même chose que d'autres chiens qui vivent dans la même maison qu'elle, parce qu'elle, elle a accès à la communication qui lui donne un statut qu'elle veut expliciter.
La voilà. Grosse tête.
Oui.
Statut de grosse tête.
Exactement. Mais donc, comme ils ont pas cette capacité articulatoire, voilà, c'est différent. Donc, on voit que sur le plan sémantique, sur le plan peut-être même construction de compositionnalité dans une certaine mesure, ils nous ont pas tout dit encore.
Il y a de plus en plus de chiens, je crois, et on est de plus en plus en interaction avec eux. Et donc, est-ce que on peut imaginer que un jour, grâce à cette évolution et ces interactions avec eux, ils vont finir par y arriver ?
Donc, sur le plan de la parole, non. Mais par contre, on est vraiment loin de savoir ce qu'on peut obtenir d'eux sur le plan de la conceptualisation et de la parole avec leurs moyens d'expression qui sont les pattes, quoi. Donc je pense que sur le plan de la parole, on peut dire non.
Anne Giraud, sur quoi portent aujourd'hui vos recherches ?
Alors aujourd'hui, mes recherches, on va dire plutôt mes recherches futures, ce qui me passionne, c'est vraiment de comprendre la génétique qui sous-tend le langage, donc d'arriver à une espèce d'architecture moléculaire du langage, ce qui est vraiment, je pense, extrêmement compliqué. On va pas y arriver tout de suite, étant donné la polygénicité du langage. Mais l'idée que j'ai, c'est d'attaquer ça justement par l'angle des oscillations neurale, puisque on connaît un peu la génétique des oscillations neurales et que le nombre de gènes impliqués est relativement restreint. Donc l'idée, c'est d'arriver par cet angle-là et par un aspect d'évolution, donc en testant plusieurs espèces, dont Néandertal sur le plan, et en testant également la diversité de l'homme moderne à travers les troubles neurodéveloppementaux. On va essayer d'avoir quelques réponses à cette question-là.
Merci Anne Giraud. Est-ce que vous connaissez l'anagramme de l'esprit du canidé ?
Pas du tout.
Elle a été trouvée par Olivier Garcia, c'est un pâle discrédit. L'esprit du canidé jette un pâle discrédit sur notre langage. Merci d'être venu à la conversation scientifique. Je recommande la lecture de votre livre qui est passionnant. Il s'intitule « Parlons-nous chiens ou pense-t-il humain ?» et vient de paraître aux éditions Hermann. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp et à la réalisation et à la mise en onde, Souad Boukorsa.